La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Une chose semble sûre à la lecture des journaux ce matin, Donald Trump n'a pas fini d'entendre parler du procureur spécial Mueller.
Oui, n'en déplaise au président américain, la séquence enquête russe n'est en aucun cas derrière lui. Et c'est le Financial Times qui avertit d'emblée l'homme de la Maison Blanche. Mise au point qui vient après la publication hier aux États-Unis du rapport d'enquête définitif du procureur spécial, donc Robert Mueller, dans sa version expurgée des données confidentielles par le ministère de la Justice. Donald Trump, qui reconnaissait il y a deux semaines ne pas avoir lu les quelques 450 pages du rapport, a tweeté hier ce lapidaire « Game over, pas de collusion, pas d'obstruction ». Il n'aurait donc rien à se reprocher, totalement blanchi par les conclusions des deux années d'investigation sur l'interférence russe. Sauf que, eh bien, dans la presse américaine, on voit que cette presse n'a pas lu la même chose que le président dans le rapport. D'abord, le Financial Times, toujours lui, note que dès sa première page, le document établit plusieurs liens entre le gouvernement américain et le gouvernement russe, et la campagne Trump en 2016. Même s'il se refuse à ce rapport Mueller à entamer des poursuites pour collusion, il indique clairement dans sa conclusion que les faits établis pourraient donner lieu à une procédure criminelle pour obstruction à la justice si toutefois le Congrès le décidait.
Et ce qui ressort de manière frappante dans la lecture du rapport Mueller, ce sont les multiples occasions pour lesquels l'administration Trump a cherché à mettre des bâtons dans les roues de l'enquête russe.
Et selon cette fois le Washington Post, derrière il y a par exemple une tentative de limogeage pur et simple du procureur Mueller voulu par Donald Trump. Et puis il y a aussi régulièrement ces consignes données à certains collaborateurs de mentir face aux magistrats. Les faits sont donc consignés dans le rapport. Les mensonges, peurs et paranoïa de la Maison Blanche sont mis à nu dans le rapport Mueller, écrit donc le Washington Post, quand le New York Times concentre son édito sur, je cite, le modèle de tromperie et de dysfonctionnement qui apparaît dans les vaines tentatives de l'administration Trump de contrecarrer l'enquête spéciale. Mais le New York Times nous confirme aussi que s'il donne tous les éléments factuels qui peuvent permettre des poursuites, le rapport Mueller refuse d'en prendre l'initiative de ces poursuites. Il préfère laisser la prochaine étape au Congrès américain, une manière de considérablement repolitiser toute cette affaire. J'en termine sur cette enquête russe par un personnage particulièrement exposé depuis hier, le ministre américain de la Justice, William Barr, est mis en cause directement par de nombreux journaux pour avoir tiré trop vite des conclusions favorables à Donald Trump sur la question en particulier de l'obstruction à la justice. Barr, nous dit USA Today, a affirmé dès qu'il a reçu il y a un mois le rapport Mueller que ce rapport dédouanait complètement le président, alors que maintenant que les journalistes ont le rapport en main, eh bien il voit bien que le ministre a menti sciemment pour protéger son patron. Et pourtant, rappel Politico, le ministère de William Barr a pris un mois pour expurger à sa guise le rapport livré à la presse, même avec des passages entiers caviardés, impossible de lire ce document sans y trouver une conclusion claire. Trump et les siens ont tout fait pour faire échouer l'enquête du procureur Mueller. Ils n'y ont pas réussi et ils n'ont donc vraiment pas fini, et nous avec, d'en entendre parler.
Et un mot à présent dans la presse britannique, celui de terrorisme à nouveau associé à la ville de Derry en Irlande du Nord.
Et c'est tout un inconscient collectif qui refait surface quand on voit sur le site du Belfast Telegraph les images de ce qui s'est passé hier soir donc dans le quartier de Cregan de la ville de Derry, considéré comme un fief nationaliste. Car oui, le terme est toujours d'actualité et la cause nord-irlandaise aussi, tant les discussions sans fin sur le Brexit et la frontière entre les deux Irlandes ont remis du sel sur les plaies mal cicatrisées de l'île. Hier soir, à Derry, donc, deux véhicules de police sont venus pour perquisitionner des maisons après ce que le Belfast Telegraph décrit comme 24 heures de terreur dans la ville. Pas moins de 4 bombes artisanales attribuées au groupe nationaliste des dissidents républicains avaient été retrouvées entre mardi et mercredi. Des bombes qui visaient des maisons individuelles, deux seulement ont explosé et aucune n'a fait de victime. Mais hier soir, donc, dans ce quartier de Cregan, les policiers cherchaient à perquisitionner ce qu'ils pensaient être des caches, des repères des dissidents républicains. Et selon le récit du Derry Journal, ils ont été accueillis par un groupe de jeunes gens qui leur a lancé d'abord des bouteilles, puis des pierres, puis une dizaine de cocktails Molotov qui ont mis le feu à un des véhicules de police. Et enfin, des coups de feu ont été échangés. C'est à ce moment-là, raconte The Guardian, qu'une jeune femme de 29 ans est tombée à terre. Elle est morte quelques minutes plus tard de ses blessures à l'hôpital. Cette jeune femme, selon BuzzFeed News, a été été identifiée par ses amis. Il s'agirait de Lyra McKee, journaliste indépendante irlandaise, collaboratrice entre autres de The Atlantic et de BuzzFeed. Lyra était sur les lieux. Son dernier tweet hier soir montre la voiture de police en feu et décrit la folie absolue de ce qui était en train de se passer. La jeune autrice était donc sur place justement parce qu'elle enquêtait sur la résurgence du conflit nord-irlandais ces derniers temps. En succombant à cette balle perdue, reçue alors qu'elle se trouvait tout près d'une voiture de police, selon sa consoeur Leona O'Neill du Belfast Telegraph, Lyra McKee devient la première victime depuis des années de ce que la police a immédiatement qualifié d'acte de terrorisme. Sa mort, pointe The Guardian, intervient, il faut bien le dire, à 2 jours de Pâques. Traditionnellement, c'est un moment de réactivation des dissidents nationalistes qui, il faut bien le dire, n'ont jamais vraiment disparu en Irlande du Nord. Alors aujourd'hui, c'est Vendredi Saint et ce jour a donné son nom, on le sait, à l'accord de paix de 1998 qui lui a mis fin à la lutte armée entre les principaux partis irlandais. Tous, ce matin, condamnent les événements meurtriers d'hier soir. Le Daily Mirror cite en particulier le Sinn Féin, parti nationaliste, qui appelle les soi-disant dissidents responsables, selon lui, de la mort de Lyra McKee à cesser leurs attaques qui menacent directement l'accord de Vendredi Saint et la paix. Même inquiétude du côté des unionistes du DUP qui font le lien entre les émeutiers d'hier à Derry et ceux qui, je cite, dès les années 70 ont amené des armes à feu dans les rues d'Irlande. Ils avaient tort à l'époque, ils ont toujours tort aujourd'hui.